Bien sûr, comme à tous les jeudis, on retrouve Olivier Beauregard pour les sports. Salut Ali, ça va bien?
Salut, ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, merci. Là, on commence en parlant de football avec les séries de la NFL qui se poursuivent en fin de semaine.
Oui, les séries de division, on est rendu à cette étape-là en fin de semaine. Ça va être des matchs intéressants. Je regardais justement la semaine dernière, je pense qu'il y a eu de belles surprises, il y a eu des déceptions aussi, là. Je pense entre autres aux partisans des Cowboys de Dallas qui, encore une fois cette année, ont vu leur équipe échouer dès le premier tour éliminatoire. C'est malheureux, mais ça fait partie du football. C'est un match, hein? C'est un match et tout peut jouer dans ce match-là. Malheureusement pour les Cowboys, c'est comme un peu si c'était la même histoire qui se répétait année après année. Et en plus, j'ai une petite pensée pour les partisans. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais les Cowboys ont confirmé que Mike McCarthy, l'entraîneur-chef, sera de retour cette saison. C'est pas nécessairement un problème de fiche en saison régulière parce que c'est 12-5 au niveau des 12 victoires, 5 défaites au niveau de la fiche. C'est vraiment exceptionnel en saison régulière. Par contre, en série éliminatoire, Mike McCarthy, c'est une victoire, 3 défaites. Ça fonctionne pas. Et tout de même, du côté de Dallas, on a décidé de lui donner un vote de confiance en vue de la prochaine saison. Bref, c'est pas tant ça le sujet de la chronique, mais ça a quand même laissé les amateurs de football un peu stupéfaits de voir que les Cowboys, encore une fois, l'histoire s'est répétée. Par contre, en fin de semaine, les matchs à surveiller, bien évidemment, il y a Houston qui va affronter les Baltimore, Ravens de Baltimore. Les Ravens qui ont vraiment une saison à tout casser. Moi, c'est l'équipe qui me fait vraiment peur en ce moment dans les séries éliminatoires. Je pense que Lamar Jackson est au sommet de son art. Il a déjà connu des saisons vraiment bonnes il y a quelques années, disons. Mais là, il est redevenu le Lamar Jackson qu'on connaît. Alors ça va être un match vraiment à surveiller. Je pense que Texas, malheureusement, va avoir fait tout ce qu'ils ont pu pour rester dans la course aux séries. Mais les Ravens vont être capables, selon moi, de l'emporter. Les Packers et les 49ers, bon match à prévoir également. Les Packers, qui, justement, je vous le disais, ont surpris les Cowboys de Dallas la semaine dernière. D'après moi, malheureusement, leur parcours va se terminer contre San Francisco. San Francisco avec Purdy comme corps arrière, un jeune corps arrière, mais qui connaît énormément de succès. Je vois pas comment ils peuvent s'incliner devant les Packers en fin de semaine. Alors, ces deux matchs-là, ça se passe samedi et dimanche. Ben, il y a les Buccaneers de Tampa Bay qui vont être du côté de Détroit. Écoute, pas fou, là, mais à Détroit, en ce moment, là, les billets de séries éliminatoires se vendent les moins chers, à 12 000 $.
Hey, ça n'a pas de bon sens, le football, pour vrai, là.
Non, mais la raison est simple, c'est que ça fait tellement longtemps qu'à Détroit, on attend justement une série de divisions, tu sais, de se rendre jusqu'à la série de divisions. C'est pas arrivé souvent, et là, les partisans sont fous. Là, je t'ai dit 12 000 $, c'est 1 200 $ le moins cher, et ça va jusqu'à 12 000 $.
Okay.
Donc, on voit à quel point il y a de l'engouement à Détroit pour ça. Je pense que les Lions, justement, vont pouvoir surfer sur cette vague-là devant leurs partisans et peut-être être en mesure de battre les Buccaneers de Tampa Bay, qui compte un Baker Mayfield comme jeune corps arrière. Je dis jeune, mais il y a quand même du village dans la Ligue. Lui avait jamais connu de succès avec les Browns. Et cette année, on se dit peut-être que Baker Mayfield est en train de prendre la progression qu'il aurait dû prendre quand on l'a repêché à Cleveland, c'est-à-dire le corps arrière d'avenir d'une organisation. Est-ce que c'est lui le bon candidat pour remplacer Tom Brady avec les Buccaneers? Ben, jusqu'à preuve du contraire, il a fait un beau travail cette année. Alors, très bon match à suivre dimanche. Et évidemment, l'autre match que moi, je vais regarder, parce que les auditeurs, vous le savez, avec les Bills de Buffalo, à quel point j'ai cette équipe-là à cœur. C'est un match qui va être exceptionnel entre les Chiefs de Kansas City, Pat Mahomes et les Bills de Buffalo, les Bills de Josh Allen. C'est un match qui va honnêtement retirer beaucoup d'attention parce que c'est deux équipes qui ont terminé avec la même fiche, c'est-à-dire 11 victoires, 6 défaites. Mais c'est aussi deux équipes qui comptent sur des corps arrière de premier plan, une équipe de premier plan. Et je pense que ça va être enlevant. C'est un peu le Super Bowl avant le temps. C'est le genre de confrontation que tu veux voir dans le dernier match d'année. Okay. Alors... ouais, du bon football en fin de semaine. Je sais pas ce que vous avez comme plan, mais moi, le mien, là, vous avez pas mal deviné, ça va ressembler à quoi.
Ouais, toi, ça va être devant la télé en fin de semaine que ça se passe.
Ben, il y a de fortes chances.
Sinon, là, ça va ailleurs complètement. Marc-André Fleury surpasse Patrick Roy.
Ouais, on savait que ça s'en venait parce que il l'a égalé il y a déjà quelques semaines au niveau des performances pour les victoires. Mais là, Marc-André Fleury a devancé Patrick Roy au deuxième rang avec le Wild du Minnesota la semaine dernière. Cette semaine, c'est exceptionnel ce que ce gars-là continue de faire dans la Ligue nationale de hockey. Vous savez, Marc-André Fleury, là, il n'y a pas un parcours facile. Là. Il est arrivé à Pittsburgh, il a pris les rênes de cette équipe-là, une concession qui était à faire. Évidemment, il a été aidé avec des Sidney Crosby, des Evgeny Malkin, mais cette équipe-là a eu besoin de renouveau. Et Marc-André Fleury a fait partie de l'ère du renouveau des Penguins de Pittsburgh. Il a amené cette concession-là à pas moins de 3 conquêtes de la Coupe Stanley. C'est vrai que la dernière, elle appartient à Matt Murray, mais Marc-André Fleury avait quand même donné beaucoup, beaucoup d'hockey pendant la saison régulière. Il a aidé cette équipe-là à atteindre ça. Alors, moi, je pense que Marc-André Fleury mérite vraiment là d'avoir tout le respect. Parce que devancer Patrick Roy, premièrement, c'est une chose, mais ce gars-là a 3 bagues de la Coupe Stanley. Non seulement il y a 3 bagues, mais il y a une participation avec les Golden Knights de Las Vegas. Rappelez-vous, lorsque les Penguins l'ont laissé partir pour Vegas alors que l'équipe arrivait dans la Ligue nationale, ce gars-là était évidemment le cœur brisé, mais a décidé qu'il allait se servir de cette motivation-là, si on veut, pour aller performer avec les Golden Knights. Et cette année-là, les Golden Knights ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Après ça, il y a eu un court passage à Chicago et maintenant, il est avec le Wild. Alors, honnêtement, c'est fantastique ce que Marc-André Fleury a fait. Je pense que c'est le dernier des Mohicans, c'est-à-dire que c'est le dernier à pouvoir se rendre à cette marque-là, de dépasser Patrick Roy. J'ai comme l'impression que lui vient de s'emparer du deuxième rang. Puis à moins d'un avis contraire, je pense pas qu'il y a un gardien qui va réussir à jouer aussi longtemps et à être aussi constant. Tu sais, on pense à André Vasilevski à Tampa Bay qui est encore jeune, mais honnêtement, c'est dur pour les gardiens de durer longtemps dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Alors moi, je pense que Marc-André Fleury va être dans les livres d'histoire. En tout cas, pour un bon bout de temps, là, j'ai hâte de voir, mais honnêtement, je vois pas qui pourrait le dépasser. C'est déjà phénoménal. Écoutez, ce gars-là, quand il était petit cul, là, ses idoles, c'était Martin Brodeur, qui est le premier, et Patrick Roy, qui est maintenant troisième. Fait qu'il se situe entre les deux. Et aujourd'hui, il peut dire, ben, savez-vous quoi, moi, j'ai réussi à dépasser un de mes idoles, une des légendes du Canadien de Montréal. Alors, chapeau à lui, vraiment, vraiment content. C'est un peu la fierté de Sorel, mais c'est aussi la fierté du Québec au grand complet, parce que quand on a un athlète québécois comme ça qui se démarque sur la scène internationale, dans un sport comme le hockey, ben ça vaut la peine d'être mentionné.
Puis comme tu dis, on pense pas revoir ça nécessairement, fait que c'est d'autant plus fascinant. On parle encore de hockey parce qu'il y a une game qui est attendue ce soir, Canadien qui est à Ottawa ce soir.
Ouais, puis là, j'ai le goût de te demander, là, tu mets ton petit 2$ sur qui?
Et misère. Tu sais, moi,
t'en poses une
je,
bonne, hein?
je suis pas vraiment ça, mais ben j'ai le goût de dire les Canadiens juste parce que là, on parlait de Patrick Roy et compagnie. Là. Fait qu'on va dire les Canadiens.
Mais c'est intéressant, mais c'est-tu quoi ta réponse? La raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est parce que pour ceux et celles qui regardent ça d'un œil vraiment extérieur, ce match-là, on sait pas nécessairement. On va dire Canadien, mais je te dirais que même ceux qui observent les performances du Canadien et les performances des Sénateurs d'Ottawa, on sait pas pour qui mettre 2$ ce soir. Parce que c'est deux équipes qui montrent aucune constance cette saison. Puis je m'explique, là. Le Canadien a joué contre l'Avalanche du Colorado cette semaine. Il a remporté ce match-là. L'Avalanche, qui est une super puissance de la Ligue nationale, mais ils ont réussi à s'incliner contre la pire équipe de la Ligue quelques jours avant, contre les Sharks de San Jose. Et même chose, là, ils ont remporté un match fumant contre les Rangers de New York, qui est selon moi la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale. Alors, le Canadien, c'est vraiment cette preuve de constance-là cette année qui va faire en sorte que cette équipe-là probablement ne participera pas aux séries éliminatoires. Je sais que Kent Hughes, en point de presse cette semaine, a dit « on y croit et on pense qu'on va être de la danse des séries ». Mais honnêtement, là, je vois pas comment le Canadien, avec des performances comme ça en demi-teinte, vont être en mesure d'atteindre les séries éliminatoires. Bref, ça va être un match intéressant parce que les Sénateurs, de leur côté, c'est la même chose. Pas de constance. On a renvoyé le directeur général. On a renvoyé l'entraîneur-chef DJ Smith. On a ramené un vieux de la vieille en Jacques Martin. Et malheureusement, on constate que ça fait pas tout le travail. Jacques Martin a beau amener son système, a beau amener son fameux game plan défensif, comme on dit, mais ça n'a pas changé la donne chez les Sénateurs. C'est une équipe qui est bourrée de talent, mais j'ai comme l'impression que c'est une équipe qui cherche des solutions. Et là, il est trop tard. Les Sénateurs ne seront pas des séries éliminatoires non plus cette année. Alors, ça va être un match intéressant, mais c'est toujours intéressant de voir ces deux équipes-là s'affronter parce que c'est une rivalité naturelle. La distance fait en sorte qu'on ne s'aime pas beaucoup. Et l'autre chose, c'est que ces deux équipes, ce soir, qui voudront pas perdre l'une contre l'autre. Alors, je pense que ça donne place à un bon match. Ça se passe à Ottawa. Premier match cette saison entre les deux équipes. Il a fallu attendre jusqu'au mois de janvier là, pour avoir une première confrontation. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en deuxième moitié de saison, on va les revoir souvent. Alors, un duel très intéressant. Et du côté du Canadien, on a confirmé que c'est Kaden Primeau qui va obtenir le départ. Je vous avoue, puis j'en ai parlé dans des chroniques antérieures. Oui. Moi, de voir la danse à 3 gardiens chez le Canadien, je trouve que ça commence à faire son temps. Jake Allen a bien fait cette semaine contre l'Avalanche. Moi, je l'aurais vu obtenir le départ. Sam Montembeau était devant le filet contre les Devils hier. Et là, ça va être Caden Primo. C'est trois gardiens différents en trois matchs. Je suis pas sûr que j'aime la formule, mais on verra ce que ça va donner ce soir à Ottawa.
Tout à fait. Puis là, sinon, ben, un combat important aussi qui s'en vient. Là, on s'en va à UFC. C'est en fin de semaine. C'est pour le Gatinois Marc-André Barrio.
Oui, je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Marc-André Barrio, on s'en est parlé régulièrement dans la chronique. C'est un jeune combattant de l'Outaouais, un gars de 33 ans qui a fait son entrée dans l'UFC. Puis personne ne lui donnait cette opportunité-là. Il a vraiment fait sa place. Il n'a pas eu le départ en UFC qu'il voulait. Il a même à un moment donné pensé que c'était terminé parce qu'on voulait plus lui offrir de contrat. Mais il a su saisir sa chance. Et là, samedi, ça va être chez lui, dans sa cour, du côté de Toronto. Il va se battre au Canada sur la carte principale contre tout un gars. On parle de Chris Curtis. Chris Curtis qui est honnêtement 14e plutôt dans le classement au niveau des poids moyens. Ça veut dire que si Marc-André Barrio remporte ce match-là, là, ce combat-là, ça veut dire qu'il va atteindre le top 15 mondial dans sa catégorie. Ça serait tout simplement fantastique pour un gars de chez nous. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'UFC et c'est un gars qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir justement accéder à ça. Et ça, là, juste pour t'expliquer vite fait, là, ça change tellement la donne parce que, vous savez, dans l'UFC, tu te bats pour ton salaire, tu te bats pour ton contrat. Marc-André vient de signer son prochain contrat. Lui, là, théoriquement, là, il est garanti d'avoir d'autres combats. Par contre, ce combat-là peut tout changer la suite des choses parce qu'en atteignant le top 15 mondial, ben ça veut dire que lui va se battre pour, premièrement, plus de sous. Monétairement, ça va être beaucoup plus alléchant. Mais aussi, les adversaires prochains seront des adversaires qui vont un jour vouloir se battre pour une ceinture. Et qui sait, peut-être que Marc-André, un jour, va se battre pour une ceinture en UFC. Ça serait tout simplement incroyable. Mais on va commencer avec le combat de l'UFC 297 à Toronto samedi. Je pense que les gens qui veulent encourager un gars chez nous, un produit local, un gars j'en parlais tout à l'heure un peu à la Marc-André Fleury, qui a fait sa place sur la scène internationale dans son sport, je pense que ce gars-là est en train de donner une bonne leçon à l'UFC en disant « Vous avez bien fait de me donner une autre chance parce que là, je suis en train de vous prouver que je mérite d'être là. » Bref, carte principale, ça se passe samedi. On va regarder ça, c'est certain, d'un œil assez averti parce que j'ai comme l'impression que si Marc-André remporte ça, il va avoir de belles choses pour lui qui vont se poursuivre pour la suite de sa carrière.
Puis on va sûrement avoir la chance de s'en reparler aussi, bien sûr, vu que, comme tu disais, on en parle assez régulièrement à la chronique. Merci beaucoup, Oli, pour tout ça. Puis on va voir si je gagne mon 2$ à soir, finalement. Là.
Ah, écoute, je vais suivre ça. Je vais t'envoyer un petit pouce dans les airs si jamais tu as raison.
OK, c'est bon. Ça se peut que je la regarde dépendant où je suis. Tu sais, des fois, sur une télé, quelque part, je suis un peu. Mais OK, parfait, je compte sur toi.
Et là, tu risques d'avoir plus d'intérêt ce soir.
Oui, bien, c'est ça, vu que je sais que j'ai un 2$. En jeu. Mais merci. Merci beaucoup, Oli, puis on te dit à la semaine prochaine.
Merci, bye-bye.
Bye-bye.